France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et on continue avec vous à 15h50 tous les mercredis. On vous retrouve Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
D'habitude, vous allez voir directement des livres à destination des plus jeunes lecteurs et lectrices. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent. Vous nous parlez non pas d'un livre pour enfants, mais d'un livre qui parle d'un conte pour enfants, un conte bien connu.
Exactement Marie, je ne sais pas si le nom d'Yvonne Verdier vous est familier. C'est une ethnologue française disparue hélas accidentellement dans les années 80 qui avait notamment publié chez Gallimard un livre devenu une référence dans le domaine de l'ethnographie villageoise. Il s'appelait « Façon de dire, façon de faire » et c'était une monographie consacrée à un village de Bourgogne dans lequel elle analysait les représentations propres au monde féminin, celui des laveuses, des couturières, des cuisinières. Yvonne Verdier s'était aussi intéressée aux traditions orales des contes populaires et en particulier au Petit Chaperon Rouge. Elle lui consacra un article paru à la fin des années 70 que les éditions Alia ont eu la belle idée d'éditer sous la forme d'un petit livre qui reparaît ce mois-ci. Il s'intitule « Le Petit Chaperon Rouge dans la tradition orale » et je l'ai trouvé passionnant.
Alors qu'est-ce que ça nous apprend ce petit livre ?
Alors ça nous apprend, bon tout le monde connaît hein, évidemment ou croit connaître cette histoire de petite fille innocente mais désobéissante. On peut en résumer en gros la portée morale en ces termes. Petite fille, ne t'écarte pas du chemin prescrit, sinon tu finiras mangée par le loup. C'est du moins ce que les deux versions qui en ont fait la fortune nous en ont transmis. La première de Charles Perrault, écrite à la fin du XVIIe siècle, qui se finissait par la mort de la petite fille. La seconde, transcrite par les frères Grimm au début du XIXe siècle et qui finissait par le sauvetage de l'enfant grâce au chasseur et la mort de l'animal. Ce que montre l'étude d'Yvonne Verdier, c'est qu'il existe une toute autre histoire du conte, longue de plusieurs siècles de tradition orale en France et dont la portée est bien différente. Recueillie pour la plupart à la fin du XIXe siècle dans le bassin de la Loire, le Nivernais, le Forêt, le Velay ou le Nord des Alpes, ces versions comportent plusieurs motifs qui ont été complètement laissés de côté par la tradition littéraire. Or, et c'est là que ça devient passionnant, dans ces versions, cette histoire est essentiellement une histoire de femme, fort peu ingénue qui plus est, une histoire de transmission, de passation de pouvoir, une histoire punk aussi, un peu gore à certains endroits, dans laquelle le loup n'est pas le héros et dans laquelle Scoop, la petite fille, n'a même pas d'habit rouge.
Bon, mais alors que raconte le conte dans cette tradition orale ? Quels sont les motifs absents des versions qu'on retrouvera ensuite chez Perrault et chez Grimm ?
Alors, le premier motif est celui du choix du chemin offert à la petite fille par le loup quand il se rencontre. La bête propose en effet à la fille de choisir entre le chemin des aiguilles et le chemin des épingles. Parfois, la petite fille précise qu'elle aime mieux prendre tel ou tel chemin pour raccommoder sa robe ou qu'elle ramassera épingles ou aiguilles pour sa grand-mère. Or, dans la société paysanne française, les ustensiles de couture jouaient un rôle important dans l'éducation des filles. Dans certains villages, à l'âge de 15 ans, elles étaient envoyées chez une couturière, non pas tant pour apprendre à coudre qu'à se dégrossir, à s'affiner, à se parer, autrement dit, à avoir une vie amoureuse dont l'épingle est l'un des symboles. En d'autres termes, cette histoire d'aiguille indique que la petite fille prend le chemin de la puberté et va pour cela trouver une grand-mère qui est déjà passée par là. Deuxième motif oublié par la tradition littéraire, le plus croustillant si je puis dire, celui du repas cannibale dégusté par la petite fille à son arrivée dans la maison. Elle est invitée par le loup à se restaurer, le loup lui dit de prendre de la viande dans le placard et la petite fille se cuisine puis mange ce qu'elle ne sait pas être son aïeul. Un repas qui comporte toujours du sang, soit sous la forme de ce que le loup présente comme du vin, soit sous forme de fricassé ou de boudin réalisé à partir du sang de la grand-mère. Bon appétit à tous. Sang qui symbolise la menstruation. Après le motif pubertaire des épingles, cette phase de l'histoire concerne donc l'acquisition par la petite fille du pouvoir de procréer. Enfin, last but not least, à la fin du conte, la petite fille n'est pas mangée. Après s'être mise au lit avec le loup à son invitation, après avoir engagé ce fameux dialogue qui note la grandeur des dents, des épaules, etc., la petite fille demande la permission de sortir pour aller faire ses besoins. Le loup la laisse s'éloigner. Après avoir attaché à sa cheville un fil, mais une fois dehors, elle le rompt et s'enfuit. Yvonne Verdier souligne que le loup est pour la petite fille l'ennemi révélateur, celui qui lui découvre son destin de femme. Elle se laisse guider par lui, non comme une victime, mais telle, je cite, « une fiancée aux yeux bandés à la découverte de ce destin ».
C'est joli. Alors c'est toujours dangereux d'utiliser ce mot-là comme ça a posteriori, mais est-ce qu'on peut dire que ces versions orales étaient féministes, Mathilde ?
Oui, bon, ce serait anachronique hein, d'employer ce terme, bien sûr. Ça gommerait aussi peut-être un peu la complexité des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ce séjour aura été pour la petite fille un séjour initiatique. Sans négliger le rôle du loup comme référent constant, écrit Yvonne Verdier, on peut légitimement opposer l'insistance des versions orales sur les fonctions féminines, qui renvoie à la grande importance qui leur était accordée dans la société paysanne traditionnelle. Que s'est-il donc passé pour que la version de Perrault, qui privilégie au contraire les relations de séduction entre le loup et la petite fille, devienne la version populaire par excellence? L'ethnologue suggère que la réponse est à chercher dans le fait que depuis le XVIIe siècle, la société s'est considérablement masculinisée et que les grands mystères et pouvoirs du corps féminin ont été peu à peu déniés. C'est ce pouvoir que ces versions orales célèbrent. On espère que des auteurs s'empareront de l'une des trois versions orales citées en exemple à la fin de l'ouvrage pour les raconter et les faire connaître au plus grand nombre.
On rappelle le titre du livre ?
Ça s'appelle « Le petit chaperon rouge dans la tradition orale ». C'est paru aux éditions Alia.
Et c'est signé Yvonne Verdier. Merci beaucoup Mathilde Wagman. J'en profite pour inviter tout le monde à aller voir la version du petit chaperon rouge proposée par le collectif Das Plateau. C'est en tournée en ce moment en France.